Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand la musique fait travailler les neurones. Un texte de Nicolas Faubert-Dufort paru le 22 août 2025 dans Virage. Le cerveau change avec l'âge, mais il reste possible de le garder en forme et d'apprendre de nouvelles choses. Il suffit de lui donner de bons défis. Une avenue intéressante? L'instrument de musique. Les neurones, ces cellules responsables du fonctionnement du cerveau, baissent en nombre en vieillissant et certaines connexions deviennent moins efficaces. Ces changements peuvent affecter la mémoire, la concentration, la vitesse de traitement de l'information et même la capacité de résolution des problèmes. En revanche, notre cerveau possède une remarquable capacité d'adaptation, la neuroplasticité. Autrement dit, les neurones sont capables de créer de nouvelles connexions et de renforcer celles déjà présentes en réponse aux stimulations que nous leur apportons et aux activités que nous exerçons. Un instrument pour s'entraider. La neuroplasticité ne disparaît pas avec le temps. Ce qui compte, c'est d'entraîner ces neurones de façon variée, stimulante et régulière. À ce titre, la musique pourrait être un excellent outil. En jouant d'un instrument, on sollicite plusieurs zones cérébrales liées à la perception sensorielle, aux émotions et à la coordination motrice. Récemment, une équipe de recherche a suivi 132 personnes retraitées, âgées de 62 à 78 ans. Après quelques semaines de cours de piano, combiné à 30 minutes de pratique quotidienne, les scientifiques ont observé une amélioration significative de la mémoire de travail auditive. L'imagerie cérébrale a aussi révélé une augmentation de la matière grise dans le cervelet. Sachant que celui-ci joue un rôle clé dans le langage, l'attention et l'imagerie mentale, ces résultats sont intéressants. Évidemment, d'autres recherches seront nécessaires pour mieux comprendre tous les effets de l'apprentissage musical sur le cerveau. Mais il n'en demeure pas moins que stimuler ces neurones en vieillissant est non seulement possible, mais aussi bénéfique. Une mélodie pour l'esprit. Aujourd'hui, une foule de ressources sont à votre disposition. Des applications conviviales comme YouGician, YOUSICION, à youzition.com/fr, Perfect Piano, disponible sur App Store et Google Play, ou Drumeo, DRUMEO, à drumeo.com, en anglais seulement, en passant par les chaînes YouTube d'artistes d'ici et d'ailleurs, rendre l'apprentissage d'un instrument de musique plus accessible que jamais à votre propre rythme. Et si vous préférez une approche plus traditionnelle, plusieurs écoles de musique et programmes affiliés aux municipalités offrent des cours adaptés à tous les niveaux, y compris pour les débutantes et débutants tardifs. Il n'est jamais trop tard pour se lancer. Comme le dit si bien un proverbe japonais, citation, on commence à vieillir quand on cesse d'apprendre. Fin de citation. C'était « Quand la musique fait travailler les neurones », un texte de Nicolas Faubert-Dufort, paru le 22 août 2025 dans Virage.
Mettre en pratique le biorégionalisme dans le Bas-Saint-Laurent, un texte d'Alexis Riopel, paru le 4 octobre 2025 dans Le Devoir. Dans le Bas-Saint-Laurent, dans la région de Rimouski, un petit réseau informel d'agriculture écologique, anticapitaliste et régionaliste prend forme. Des liens étroits unissent ces paysans solidaires qui oscillent entre une volonté de s'extraire du système et celle de le réinventer. Ces dernières semaines, nous sommes allés à leur rencontre. Mélodie Anderson et ses collègues maraîchers n'ont pas chômé l'été dernier. Ils ont dû non seulement cultiver les légumes de la dérive vendus au kiosque libre-service et au marché public de Rimouski, mais aussi remplir une mission spéciale. Nourrir les 175 invités du campus populaire Terre et Liberté, un événement de 3 jours sur la décroissance qui a eu lieu en juillet dans la ferme et qui a rassemblé des participants venus de partout au Québec. 2 mois plus tard, la maraîchère de 26 ans fait visiter les lieux. Les discussions et les repas se déroulaient en plein air, à 2 pas des champs, ou bien sous un grand abri surnommé le cercueil du capitalisme. Tourbillonnant au pied de Mélodie, le chien Varek veut qu'on lui lance le ballon. Ce matin, 3 fermiers sont à l'œuvre et transplantent les dernières pousses de la saison. Du chou à l'okra, en passant par les laitues et les poivrons, une ribambelle de légumes émerge du sol. Décroître, et puis quoi ensuite? Les gens de la dérive ont une réponse. Élaborer une économie en phase avec le territoire local et ses spécificités. Un concept nommé biorégionalisme. On croit à une forme d'organisation décentralisée où il y aurait une espèce de fédération des régions qui arrive finalement à changer les choses ensemble, explique Mélodie, originaire des Laurentides et qui s'est accrochée les pieds à Rimouski, séduite par l'aventure paysanne de ce coin du Bas-Saint-Laurent. Dans une biorégion, on recherche une certaine autonomie alimentaire, mais pas question de faire pousser des bananes en serre. Il s'agit plutôt de comprendre ce que le territoire peut offrir de meilleur et d'en profiter. Le petit réseau solidaire de Rimouski s'efforce de mettre ce principe en application de manière très concrète. En outre, il adhère à l'idée d'organiser la production agroalimentaire pour tendre vers l'autonomie avec moins d'efforts. La nébuleuse de paysans développe une planification agroécologique régionale, souligne Gabriel Leblanc, cofondateur de La Dérive. Selon cette vision, l'apport de chaque agriculteur doit être complémentaire à ce qu'offrent les autres. Rien ne sert que tout le monde fasse de la carotte. Penser l'agroécologie ainsi, c'est une lutte contre l'individualisme, croit le jeune homme, qui a joué un rôle de premier plan dans l'organisation du campus Terre et Liberté. Noémie Bureau-Civil, une partisane de la décroissance qui est dans le conseil d'administration de La Dérive, figure aussi parmi les instigateurs de l'événement. À titre de chercheuse indépendante, elle étudie le potentiel biorégional du BIC et de Saint-Valérien où elle habite. Ce qu'elle voit avec La Dérive, le père Canuel, les jaseurs des cèdres et les autres petits producteurs du coin, c'est le début d'un véritable modèle alternatif où prévaut une forte solidarité. Ils font du troc, ça les rend beaucoup plus robustes, dit celle qui estime que ce petit réseau a vraiment quelque chose d'unique au Québec. Nourrir tout le monde. Démarrer un projet agricole atypique se heurte souvent à un sacré défi, celui de l'accès à la terre. À cet égard, La Dérive a eu de la chance. La ferme où travaillait cette saison une 15aine de personnes, dont des bénévoles, est établie à Chagetère, une fiducie d'utilité sociale agroécologique. Fondée par le philosophe et écrivain Jean Bédard et sa conjointe Marie-Hélène Langlais, qui voulait rendre la terre accessible à petit prix à ceux qui la cultivent dans le respect de l'environnement. La Dérive exploite une 15aine d'hectares, dont 1 hectare pour le maraîchage. Plus près de la route 132, moutons et chèvres broutent paisiblement. Leur rôle consiste surtout à faire du fumier pour remplacer les engrais de synthèse venus d'outre-mer. Dans la grange, Mélodie a assemblé un peu plus tôt ce matin des paniers de légumes pour le répit du passant, un organisme rimousquois qui héberge et nourrit les personnes démunies. La Dérive se démène pour trouver des subventions et des dons financiers pour contribuer à des missions communautaires. D'autres fermes, comme celle du Vieux Véra, embarquent parfois dans le bateau. Il faut organiser des productions territoriales pour nourrir les gens d'une manière non classiste, c'est-à-dire sans exclure les personnes qui sont pauvres ni celles qui sont riches, dit Gabriel. On veut juste que tout le monde soit nourri, souligne le titulaire d'une maîtrise en sciences de l'environnement qui travaille durant la saison hivernale pour un organisme de gestion de données scientifiques. Pizza hyper locale. Quelques jours plus tard, dans une érablière de Saint-Valérien, 2 groupes de musique, Laveuse Sécheuse et Mop, achèvent leur test de son. La scène est logée dans la cabane à bouilloire qui n'a que 3 murs. Charles-Antoine Guimond-Leblanc, éleveur de porc et faiseur de sirop, s'apprête à recevoir 100 d'invités pour un party assez spécial où on servira de la pizza aux ingrédients ultra locaux. Ça fait 2 semaines qu'on travaille comme des fous pour préparer ça, lance-t-il, courant d'un côté à l'autre. Peu à peu, amis de proche ou de loin déboulent dans la forêt balancienne. Maraîchers, éleveurs, transformateurs, tout l'escadron solidaire de Rimouski, du Bic et de Saint-Valérien répond présent. Le producteur de tempeh Pierre-Olivier Canuel, un ami d'enfance de Charles-Antoine, et ses 6 enfants arrivent dans un tourbillon. Le maraîcher Gabriel Leblanc, qui est d'ailleurs le cousin de l'hôte, se pointe le nez et ouvre une bière. Ce sont les délices de ces producteurs qu'on mangera ce soir dans l'érablière, comme les shiitake, des jaseurs des cèdres ou encore les tomates de la dérive. Une sorte de festin du village des Gaulois, mais avec du porc effiloché plutôt que du sanglier. Une célébration d'une biorégion dont le potentiel est encore à peine exploité. Il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe dans la région ici, remarque la séricultrice Noémie Daris, tout près du feu. C'était « Mettre en pratique le biorégionalisme dans le Bas-Saint-Laurent », un texte d'Alexis Riopel, paru le 4 octobre 2025 dans Le Devoir.
Des Jeux paralympiques en famille attendent mon oncle Alexis. Un texte de Martin Comtois paru le 18 novembre 2025 dans Ici Radio-Canada. Est-ce que la troisième fois sera la bonne pour Alexis Guimond aux Jeux paralympiques? Le skieur para-alpin de Gatineau rêve de gagner une première médaille d'or en Italie. Il avait obtenu le bronze au slalom géant en 2018 à Pyeongchang et le bronze au Super G 4 ans plus tard à Pékin. « Je suis un athlète compétitif. Je veux que ça marche. Je veux gagner. C'est mon objectif », lance-t-il. Ce qui rendrait le tout encore plus spécial, c'est que sa famille entière se déplacera pour sa troisième aventure paralympique. Maman et papa étaient là en Corée du Sud. Cette fois-ci, ses parents seront accompagnés de son frère et de sa petite famille. La nièce et le filleul de Guimond le verront skier pour la première fois. Mon oncle Alexis a bien hâte. Il va y avoir une petite pression additionnelle, je crois. Mais je pense que ça va me donner aussi encore plus de motivation. Une citation de Alexis Guimond, skieur para-alpin de Gatineau. L'athlète âgé de 26 ans se pointera à Milan avec un autre titre également, celui de co-capitaine de l'équipe paralympique canadienne qui lui a été octroyé dans les derniers jours. Ça représente beaucoup pour moi, parce que l'équipe, c'est ma famille, surtout sur la route. Ça fait quasiment 10 ans que je suis sur l'équipe. C'est un grand honneur de prendre une position de leadership sur l'équipe, dit-il. Je suis très fier de l'effort qu'on fait jour après jour, de même que les sacrifices qu'on s'impose pour la passion du sport en équipe. Rapide sur les pentes internationales depuis 2016. Guimond a effectué ses débuts sur le circuit de la Coupe du Monde en 2016. Il avait alors 16 ans. Alexis Guimond a récolté 6 médailles en Coupe du Monde l'hiver dernier, en plus de terminer second au slalom géant masculin debout au championnat du monde. Sa nouvelle saison, elle, doit commencer le 10 décembre en Autriche. En fait, le mois prochain s'annonce assez occupé avec 3 étapes de la Coupe du Monde. Ça fait son affaire, surtout qu'il a eu peu d'occasions dernièrement de skier. La neige se fait rare, même dans l'ouest canadien où il se trouve. Les membres de l'équipe canadienne devaient tenir un camp d'entraînement à Panorama, mais ils n'ont jamais pu enfiler leurs skis. Guimond souligne avoir skié à la fin de l'été au Chili, et il dit avoir un plan B au cas où les flocons ne se pointent pas d'ici la fin du mois. La possibilité de se pointer en Europe plus tôt avant le premier arrêt de la Coupe du Monde se trouve sur la table. Peu importe ce qui va se produire, Alexis Guimond est serein. Il indique avoir continué sa formule gagnante durant la saison morte, d'avoir misé sur le vélo et l'entraînement dans un gymnase. « Je suis plus fort et plus costaud que lorsque j'étais jeune. J'ai appris à apprécier les haltères et tout ça au fil des années. » C'est devenu une seconde nature pour moi de m'entraîner. La dernière décennie a passé si vite, avoue-t-il. C'est une grosse partie de ma vie quand tu y penses. J'ai acquis beaucoup d'expérience et de maturité au fil de ces années. Je trouve que j'ai eu un beau parcours. C'était « Des Jeux paralympiques en famille attendent mon oncle Alexis », un texte de Martin Comtois paru le 18 novembre 2025 dans Ici Radio-Canada.
dépression et risques suicidaires, ce que révèle la recherche. Un texte commandité paru le 10 novembre 2025 dans La Presse. La dépression constitue un enjeu majeur de santé publique. En plus d'affecter profondément la qualité de vie, elle représente le principal facteur de risque associé au suicide. Mieux comprendre la maladie s'avère donc essentiel afin de prévenir les cas de suicide et de sauver des vies. Caractérisée par une humeur triste ou une perte de plaisir ou d'intérêt soutenu pendant plusieurs semaines, le trouble dépressif est courant, mais loin d'être anodin. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la dépression est la première cause de morbidité et d'incapacité dans le monde. Cette maladie mentale se décline toutefois en différents degrés, allant de légère à sévère, en fonction du nombre et de la gravité des symptômes et de leur impact sur le fonctionnement de la personne touchée. Si la plupart des gens qui ont un trouble dépressif présentent une forme assez bénigne qui se traite facilement, un pourcentage d'individus souffrent cependant d'une forme sévère, marquée par une souffrance profonde qui perturbe grandement leur vie professionnelle, sociale et familiale, explique le psychiatre Gustavo Turecki, directeur scientifique et chef du département de psychiatrie de l'Institut Douglas et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les troubles dépressifs majeurs et le suicide. La dépression, principale cause de suicide. Chaque année, environ 4 500 personnes décèdent par suicide au Canada. Or, les données probantes démontrent que le trouble dépressif représente le facteur de risque le plus important de suicide. Avoir un diagnostic de dépression peut augmenter jusqu'à 7 fois le risque suicidaire en comparaison de la population générale. Et pour certaines formes très sévères, ce risque s'avère encore plus grand, indique le docteur Turecki. Repérer les idées suicidaires est donc une étape cruciale lorsqu'une personne souffre de dépression. Ces pensées ne mènent pas nécessairement à un passage à l'acte, mais elles sont importantes pour l'évaluation clinique du risque. Les personnes les plus vulnérables. Certains individus sont plus enclins de passer à l'acte que d'autres. Le risque varie notamment en fonction du sexe et de l'âge, parmi d'autres facteurs. Le nombre de décès par suicide est de 3 à 4 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes au Canada, même si ces dernières font davantage de tentatives, souligne le psychiatre du Centre de recherche Douglas. Par ailleurs, les personnes les plus touchées sont souvent d'âge moyen, c'est-à-dire dans la quarantaine et la cinquantaine. Cela dit, le suicide frappe aussi les aînés et les jeunes de 15 à 34 ans. Dans cette tranche d'âge, il représente la deuxième cause de mortalité au pays. Parmi les gens décédés par suicide, la dépression est présente dans 50 % des cas chez les plus jeunes et dans presque 90 % des cas chez les aînés, rappelle le Dr Gustavo Turecki. L'importance de la recherche. En raison de son extrême complexité, le cerveau se révèle la dernière grande frontière de la médecine. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau des personnes présentant un trouble dépressif, assure le spécialiste. À l'Institut Douglas, le Dr Turecki et son équipe tentent donc de découvrir pourquoi certains patients dépressifs se suicident alors que d'autres, qui souffrent de la même maladie, ne le font pas. Ces projets de recherche ont notamment permis d'identifier des types spécifiques de cellules cérébrales affectées par la dépression. Cela nous donne une image beaucoup plus claire des cellules impliquées, ce qui peut ouvrir la voie à des traitements plus efficaces et à de meilleures mesures de prévention, affirme le psychiatre. Bien qu'une minorité de gens souffrant d'un trouble dépressif se suicide, chaque décès est un drame qui aurait potentiellement pu être évité, nous dit le Dr Gustavo Turecki. C'était « Dépression et risques suicidaires, ce que révèle la recherche ». Un texte commandité paru le 10 novembre 2025 dans La Presse.
Pourquoi tout le monde s'estime sous-payé? Un texte de Jean-François Berthelet, paru le 4 novembre 2025 dans La Presse. Estimez-vous que votre rémunération est à la hauteur de ce que vous livrez comme performance au travail? Si vous répondez par la négative, vous vous doutez bien que vous n'êtes pas seul. Les grandes enquêtes internationales le confirment. La majorité des employés s'estiment sous-payés, même lorsqu'ils gagnent un salaire supérieur à la moyenne du marché. Ce constat ne surprendra aucun directeur des ressources humaines qui a dû, avec un grand malaise, faire connaître les derniers résultats du sondage d'engagement des équipes qui montre encore pour une énième année que la satisfaction salariale termine bonne dernière parmi tous les éléments évalués. Si vous suivez l'actualité actuellement, vous remarquerez assurément que plusieurs groupes clament haut et fort qu'ils sont sous-payés. Nous sommes donc devant un paradoxe. Si tout le monde est sous-payé, qui est surpayé? C'est un peu à l'image de nos étudiants qui estiment tous mériter davantage que la moyenne de groupe à l'examen, posant un grand défi aux professeurs lors de la séance de remise des résultats. Comment expliquer ce phénomène? Le phénomène d'égolité. George Orwell disait dans son livre « Animal Farm » que tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que les autres. C'est ce que j'appelle le phénomène d'égolité. Les critères d'évaluation sont égaux et objectifs, mais la perception de notre propre contribution est déformée. Car le cerveau humain a une petite manie. Il gonfle notre contribution et minimise celle des autres. Ce n'est pas de la vanité ni même de l'égoïsme, mais simplement un effet d'optique cognitive. Je vois tout ce que je fais, chaque effort, chaque courriel, chaque idée qui a fait la différence, mais je ne vois qu'une fraction du travail des autres. Résultat, mon cerveau additionne mes efforts en pleine lumière et les leurs dans l'ombre. C'est ce qu'on appelle le biais égocentrique, cette tendance naturelle à croire qu'on a donné un peu plus, qu'on a été un peu plus performant, un peu plus présent. Et comme chacun raisonne ainsi, il devient presque inévitable que tout le monde se sente un peu lésé. Un exemple concret. Dans bien des organisations, le service des ventes est souvent perçu comme un groupe favorisé. Ceux qui travaillent à la production ou à l'administration se disent que ses collègues passent leur journée à parler avec des clients, à écouter de la musique en voiture et à dîner au restaurant pendant qu'eux montent la garde. De leur côté, les représentants voient la situation autrement. Ils vivent sur la route, subissent la pression des quotas, affrontent le rejet des clients et trouvent qu'on ne reconnaît pas les heures passées loin de la maison. Chacun a raison de son point de vue. Et c'est exactement ça, l'égolité. La conviction sincère qu'on en fait un peu plus que les autres, que notre charge est plus lourde, notre stress plus intense, nos efforts plus méritoires. Pas par orgueil, mais parce que l'on connaît intimement sa propre peine et beaucoup moins celle des autres. Est-ce que quand on se compare, on se console vraiment? Il semble que non. Chaque personne voit sa valeur sous son propre prisme déformé. Certains croient qu'ils devraient gagner davantage que leurs jeunes collègues, car ils ont plus d'ancienneté. Le jeune collègue, lui, rétorque que l'expérience ne compense pas la performance et qu'il mérite donc davantage. Bref, ce n'est pas le salaire en soi qui compte dans notre esprit, mais sa comparaison avec les autres. Je ne compte plus les conversations que j'ai eues dans ma carrière avec des travailleurs gagnant un salaire faramineux à faire rêver la majorité d'entre nous, mais néanmoins mécontents, car ils ont appris entre les branches que leurs collègues avaient un salaire encore plus élevé. Perception subjective et conséquences objectives. Ce sentiment d'être sous-payé amène des conséquences contradictoires sur la prestation des travailleurs. Il semble que les humains ont une réaction asymétrique face à leur positionnement salarial perçu. Une recherche publiée dans le Journal of Economic Behavior and Organization montre que si une personne qui se considère comme sous-payée tend à réduire son effort pour rétablir son sentiment d'injustice salariale, une personne surpayée ne rembourse pas son salaire injustement trop élevé par un effort supplémentaire. Je suis conscient que je ne serai pas très populaire en invoquant le fait que vous n'êtes peut-être pas si mal payé que ça, finalement. Mais sachez que je le fais pour votre bien, car indépendamment de votre salaire objectif, la perception de ne pas être récompensé à sa juste valeur, par rapport à ses efforts, apporte des conséquences négatives importantes sur la santé physique et mentale. Une méta-analyse publiée en 2021 a bien illustré que ce sentiment est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de dépression. Si vous en êtes capable, vous pouvez donc maintenir une autoroute à deux voies, prendre soin de votre cœur et apprécier votre salaire, tout en demandant une augmentation avec un certain détachement, si vous pensez vraiment au fond de vous que vous le valez bien. C'était « Pourquoi tout le monde s'estime sous-payé », un texte de Jean-François Berthelet, paru le 4 novembre 2025 dans la presse.